Bonjour chers auditeurs de Radio Grand Ciel. J'ai le grand plaisir d'avoir avec moi à nouveau dans le studio Hervé Pinoteau, historien et spécialiste reconnu de la science héraldique. Il nous a parlé dans une première émission de Notre-Dame de Chartres et de la France très chrétienne et royale, surtout du vitrail de Notre-Dame de la Belle-Verrière que l'on peut dater grâce à une identification de sa couronne impériale dans, sans doute dans la première partie du XIIe siècle. Aujourd'hui, Hervé Pinoteau nous propose, dans notre émission que j'ai consacrée à Notre-Dame de Chartres et la France très chrétienne et royale, il va nous parler des vitraux de la chevalerie française, l'étendard de Saint-Denis et le programme royal des transepts nord et sud, si le temps nous le permettra. Donc, bonjour Monsieur Pinoteau, je suis très heureuse de vous avoir à nouveau dans notre studio. Tout le monde sait sans doute que vous avez publié beaucoup d'ouvrages sur l'héraldique capétienne et la symbolique royale, donc vous connaissez effectivement très bien tous ces sujets. Vous avez aussi publié un ouvrage sur Saint-Louis, son entourage et la symbolique, et les chartrains et toutes les personnes qui connaissent bien la cathédrale savent que la cathédrale de Chartres a un ensemble de verrières données par Blanche de Castille et par Saint-Louis. Mais commençons, si vous voulez bien, par ces vitraux de la chevalerie française que l'on trouve dans la partie haute du cœur de la cathédrale de Chartres.
Oui, je me suis penché aussi, comme d'autres personnes avant moi, sur cette question de la chevalerie française, sur les vitraux du cœur. Et j'ai été ravi que François-Xavier de Guibert m'ait commandé ce petit livre sur Notre-Dame de Chartres et de France, parce que ça m'a permis de revoir tout ce problème de la datation. Et une fois de plus, je propose une datation, comment dirais-je, un tout petit peu plus ancienne que ce que l'on raconte généralement. Voilà. La question est, c'est que on commence par la chevalerie, là.
Très bien. Oui, commençons par la chevalerie.
Et dans le cœur de la cathédrale de Chartres, on a cette chose extraordinaire, c'est de voir une frise incomplète maintenant, parce qu'autrefois elle était beaucoup plus complète, mais il y a eu des chanoines au XVIIIe siècle qui ont enlevé des vitraux pour y voir plus clair.
Non, mais ils ne les ont pas détruits, je dois les défendre. Voilà. C'est à la Révolution française que l'on les a détruits.
Et voilà, oui, bien sûr, c'est à la Révolution française, hélas. Mais la question est la suivante, c'est que cet ensemble de chevalerie, de chevaliers, qui comprend quand même le roi de Castille, ce qui n'est pas rien, et le prince héritier, le fils aîné de Philippe Auguste, il est évident que c'est un ensemble absolument extraordinaire. On y trouve évidemment des chevaliers, c'est-à-dire des gens en armes pour faire la guerre, c'est pas n'importe quoi, mais c'est une guerre un peu spéciale qui est évoquée avec en particulier Simon de Montfort et son fils Amaury. C'est une guerre contre l'hérésie, contre une grosse bêtise qui trottait dans l'esprit de certaines personnes dans le sud de la France, c'est la guerre contre les albigeois. C'est-à-dire une guerre contre des gens qui non seulement faisaient penser des choses absolument ahurissantes et qui même étaient extraordinaire parce que c'était une guerre avec des élus, des gens qui étaient parfaits et les autres qui n'étaient pas parfaits. Donc c'était, il y avait une espèce d'aristocratie dans cette religion. Et de plus, c'était une religion qui vouait à l'extinction de l'humanité parce que faire des enfants, c'était pas bien. Et c'était vraiment l'extinction de l'humanité qui était prévue, qui était voulue. En plus, comme ces gens qui en plus faisaient littéralement un contre-État à l'intérieur du royaume de France, et qu'à un certain moment, au début du XIIIe siècle, ils ont assassiné le légat pontifical. On s'est dit, bon, les idées, déjà, c'est pas bien malin, mais quand on en arrive à tuer le légat pontifical, c'est que ça va très mal.
Donc c'est en 1208. C'est en 1208 l'assassinat.
Oui. Alors à ce moment-là, donc les Français du Nord qui étaient proches du roi, parce que le roi ne s'est pas engagé tout de suite dans l'affaire, les Français du Nord ont commencé à faire des expéditions, et en particulier, tout le monde connaît les Lévis, le seigneur de Lévis, qui est l'auteur de la famille de Lévis-Mirepoix, et les Montfort et des gens comme ça qui ont dégringolé vers le sud pour mettre un tout petit peu d'ordre, et en particulier contre un féodal français qui était très important, le comte de Toulouse. Le comte de Toulouse qui régnait sur une bonne partie du Languedoc et qui était passé à l'hérésie. Alors donc, c'est là, dans ce contexte-là, qu'on a vu cette chevalerie française se combattre et pour faire régner l'ordre moral, enfin même religieux et, comment dirais-je, physique dans la société.
Voilà, on peut peut-être rappeler à cet égard qu'à partir du sacre de Louis VIII a été inclus le serment que dut ensuite prêter aussi Louis IX, Saint Louis à l'âge de 12 ans, à savoir celui de chasser les hérétiques.
Mais bien sûr,
et c'était demandé déjà par le troisième concile de Latran en 1179. Cela explique peut-être un peu l'engouement qu'avait la royauté et la chevalerie française de mettre de l'ordre. L'ordre parce que les albigeois refusaient quand même tous les sacrements.
Oui, mais c'était
que le consolamentum donné à la fin de la vie. Mais cela nous permet aussi peut-être de comprendre pourquoi dans les vitraux de la cathédrale de Chartres, on met l'accent sur tous les sacrements, le baptême entre autres,
qui revient
constamment dans toutes les histoires racontées dans les vitraux légendaires. Donc je ne voulais pas vous freiner dans votre élan. Donc nous parlions de cette épopée, si on veut, pour la chevalerie française, qui est représentée dans le cœur de la cathédrale de Chartres. Difficile d'accès, il faut dire, pour le plus commun des visiteurs. Donc on ne les voit que si on se met un peu en recul dans le déambulatoire pour voir en haut les vitraux qui sont en plus très corrodés. Donc
on les restaure progressivement.
On est en train de les restaurer. Donc la rose de Louis VIII Louis de France a été replacée. Elle est superbe. Donc on a tous ces nobles représentés avec leurs armoiries. Donc je vous redonne la parole.
Oui, effectivement, il y a des armoiries. Et c'est comme ça d'ailleurs, comme on appelait ça au XIIe siècle, des connaissances, des signes de connaissances. Ça se voit dans les chansons de Jess, un tel a des connaissances, on le reconnaît, c'est qu'une essence. Voilà. Et effectivement, il fallait bien se distinguer dans la bataille, en dehors par exemple de l'étendard numéro 1 qui pouvait emmener les Français à la bataille, qui était ce qu'on appelle par la suite, à la fin du XIIe, l'oriflamme, qui était d'ailleurs tout rouge, et qu'on trouve déjà en particulier rouge et quelquefois un peu jaune, mais normalement c'est normal parce qu'il y a le souvenir d'un étendard carolingien qui était sûrement fait avec des tissus d'or, et cet étendard qui est devenu rouge à partir de Suger, qui évoque évidemment la guerre, le rouge c'est la guerre, mais aussi le sang des martyrs, et Saint-Denis est un martyr. Or cet étendard conservé à Saint-Denis, qu'on appelait Montjoie, cet étendard on le retrouve à plusieurs endroits.
On continuera après le Beata Nobis Gaudia conduit à une voie pour le couronnement de Louis VIII en 1223. Pinotto, historien héraldiste, nous parlait de la chevalerie représentée dans les vitraux du haut cœur de la cathédrale de Chartres.
Oui, et une chevalerie qui, quand on fait une grande guerre, est menée au combat par l'étendard numéro 1, ce qui est l'étendard de Saint-Denis, avec l'influence de Suger, qui a mis Saint-Denis en avant. Donc l'étendard dit, qu'on appelait par la suite Oriflamme, cet étendard était tout rouge, le sang du martyr qui est évoqué, puisque Saint-Denis a été martyr, et c'est le rouge et la couleur de la guerre. Alors il y a un vitrail qui est consacré consacré justement à cet étendard où on voit Saint-Denis qui transmet à quelqu'un de la famille du Metz, où tout le monde est, enfin sur plusieurs générations, ils ont été maréchal du roi. On disait pas maréchal de France à cette époque-là, maréchal du roi.
C'est la famille Clément.
Comment ?
La famille Clément.
Clément, oui, Clément du Metz. Et donc, à ce moment-là, c'est une magnifique représentation de cet étendard qui a été très important jusqu'à la guerre de Cent Ans. Il n'a pas, par la suite, il était conservé dans un coin, mais il n'allait plus à la bataille. Il n'a pas participé, comme par hasard, à l'épopée de Jeanne d'Arc. Il y avait un étendard blanc, d'ailleurs. C'est très important. Mais cet étendard, qui était relatif aussi aux croix, au cri montjoie, qui est relatif à la joie que l'on a d'aller au combat, parce que les Français ont toujours été considérés comme des gens qui allaient au combat avec la joie, et la joie était un des thèmes principaux de la mentalité française, puisque le roi Louis VII un jour a dit à un Anglais qui véritablement vantait un peu trop la cour d'Henri II d'Angleterre, « Oh, en France, nous n'avons que du pain, du vin et de la joie. » Voilà, et gaudium. Voilà.
Alors, on peut très bien identifier donc cette famille Clément qui a donné plusieurs maréchaux au roi, parce qu'il y a cette pièce héraldique sur le vêtement du maréchal représenté et au bas de la verrière. Dites-nous qu'est-ce que c'est.
Bien sûr, c'est les armoiries de la famille. Et d'ailleurs, c'était certainement un cadet de la famille parce qu'il y a une bande rouge qui traverse l'écu. Mais alors, c'est d'azur à la croix. La croix ancrée d'argent et qui est c'est tout à fait normal, et comment dirais-je, il n'y a rien d'extraordinaire dans ces armoiries-là. Alors, là, je dois dire qu'il y a eu une inversion, l'hectachrome a été renversé.
Dans votre livre Notre-Dame de Chartres et de France, qui
oui. Et ce qui fait que ça met une barre de bâtardisme, en réalité, c'est une bande rouge, voilà. Mais c'est l'essentiel, c'est pas ça. L'essentiel, c'est une des plus belles représentations de cet étendard qui était tout rouge et qui a des queues, comme cinq flammes.
Et voilà. L'or et flamme, donc, viendrait de...
Il y avait autrefois...
Des fils d'or qui...
Non, pas du tout. Je suis persuadé que, d'abord, autrefois, il n'y avait pas cinq queues à cet étendard, ce long étendard, mais c'était des bandes d'étoffes qui étaient toutes quasiment séparées les unes des autres. Ça se voit dans certains manuscrits carolingiens, et même plus tard, sur les sceaux, en particulier de certains souverains. Donc, ce sont des flammes. Et les flammes devaient être d'or, parce que l'or est capital dans la monarchie carolingienne. Donc, ça veut dire qu'il y avait un étendard composé de flammes d'or, et on est allé chercher des étymologies complètement stupides en France et en Amérique et partout dans les... quand on s'est occupé de ça. Et donc, on s'est complètement trompé. Mais finalement, on a plaqué le nom d'Oriflamme à la fin du XIIe siècle sur cet étendard rouge, et c'était a priori complètement, disons, inutile, et ça ne pouvait donner que des erreurs dans l'esprit des gens.
Voilà. Voilà, alors quels sont ces chevaliers que l'on voit dans la partie haute du chœur dans les vitraux ? On a la famille de Montmorency.
Oui, des Montmorency, mais des Montmorency cadets, ça doit être les seigneurs de Marly. Voilà,
Robert Seigneur de Beaumont-les-Hôtels, le Perche.
Oui.
Que l'on peut identifier grâce aussi à sa pièce héraldique.
Oui, mais tout.
D'or à deux lions, Léopardé. Et puis parlons peut-être plus précisément de Simon, seigneur de Montfort, qui a donc mené.
Et qui est mort à la croisade contre les Albigeois, et puis de son fils Amaury. Ce sont des gens qui ont eu à un moment la possibilité de régner sur tout le Languedoc, mais l'affaire s'est finalement terminée par le fait qu'on a forcé le comte de Toulouse à retourner dans une voie de plus normale, et que sa fille unique a été mariée à Alphonse, le frère de Saint-Louis, Alphonse comte de Poitiers, qui est devenu comte de Toulouse, et c'est comme ça que le comté de Toulouse, qui était du royaume, bien entendu, a été repris complètement par la couronne.
Voilà. Et Louis de France est représenté également, le futur Louis VIII, avec ses armes de France ancien, d'azur,
et semé de fleurs de lys d'or, voilà. Et il porte les mêmes armoiries que le roi. Et jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, et même sous la Restauration, le dauphin porte les armes de France, les armes du roi. Évidemment, écartelé du Dauphiné, mais les quartiers de France ne sont pas brisés, ils sont pleins. Parce que tout ça, c'est la théorie la théorie politique en France, l'assimilation quasiment de l'héritier, enfin même pas du successeur, au roi.
Mais qui a été... C'est très important parce que cela nous explique un peu le choix des rois pour le semer de fleurs de lys. Comme vous dites, rappelle quand même la voûte céleste. Quelle est l'origine
C'est céleste. Alors là, je suis encyclopédique en la matière et j'ai trouvé la clé de pourquoi est-ce que les rois de France ont pris d'azur semé de fleurs de lys d'or. C'est tout simplement que les rois portaient des manteaux cosmiques depuis, mettons, Charles le Chauve. Et Charles le Chauve, c'était la tunique. Tout ça, c'est basé sur des paroles de la Bible. Et après, les empereurs allemands, on est certain qu'ils ont pris, évidemment, comme on le voit sur le manteau de Saint-Henri II à Bamberg, ils ont pris des manteaux avec des constellations. Le roi de France devait faire la même chose. Et Louis VII, lui, a changé de cosmos. Sous l'influence de Saint Bernard, avec son sermon, ses 86 sermons sur les Cantiques des Cantiques, il a transposé le cosmos matériel, la lune, le soleil, les étoiles, il a transformé ça en le ciel des élus, et les élus sont les gens qui sont au ciel parce qu'ils sont conformes au Christ. Le Christ est un lys, dit Saint Bernard, donc ceux qui sont au ciel sont comme des lys. Le ciel des élus, c'est le ciel des lys. Donc le roi de France, Louis VII, a changé de cosmos. Voilà.
Voilà une très belle expression. Nous sommes en plein dans le programme royal des vitraux. C'est peut-être le moment de commencer à parler du transept nord qui nous montre des personnages, des patriarches de l'Ancien Testament, mais couronnés.
Oui. C'était absolument extraordinaire, c'est que au fond, le transept nord est un transept qui est crypté, parce que le transept sud, alors là, c'est la gloire de la famille de Dreux, qui a eu la Bretagne. Pierre de Dreux a épousé la duchesse de Bretagne. Et là, on voit Pierre de Dreux, sa femme et les enfants, avec leurs armoiries, ils sont représentés, et c'est à la gloire donc de ces cadets capétiens. Le vitrail du transept nord, lui, il est beaucoup plus discret parce qu'on ne voit pas de roi de France. On voit les armoiries des rois de France et les armoiries de la Castille parce que on est très content d'avoir épousé une fille du grand roi de Castille, Alphonse VIII, qui a gagné sur les musulmans à la bataille de Las Navas en 1212, si j'ai bonne mémoire. C'est une victoire extraordinaire, Las Navas. Et donc, tous les descendants, une bonne partie des descendants d'Alphonse VIII, ont pris dans leurs armoiries, d'une manière ou d'une autre, les armoiries de Gueules au château d'Or, n'est-ce pas, de Castille. Et ça se voit encore dans de nombreuses lignées, et pendant des siècles. Donc, et Saint-Louis, la symbolique de Saint-Louis, ça n'est pas dans ses armoiries, mais quand il y a un décor comme ça, il met justement des armoiries comme de ce genre.
Alors, après le Unxerun Salomonem, l'antienne chantée par l'évêque au moment de l'onction royale, nous allons continuer notre entretien sur les vitraux du transept nord.
Unxerun Salomonem, sadoc sacerdos et natal propheta, regem in divam. Et ascende
C'est un chant qu'on a pu entendre peut-être sous une autre, mais avec une autre mélodie jusqu'en 1825 pour le sacre de Charles X, et qui fait justement mention au moment où on sacre l'archevêque sacre le roi que de l'onction de Salomon. Voilà.
Et nous voilà à nouveau donc dans le programme royal du transept nord. Rappelons ce que disait Matthieu de Paris vers 1250 en parlant justement des rois de la chrétienté, des rois de France. Il disait que le roi de France est le premier des rois de la chrétienté pour la céleste liqueur dont il est oint en son sacre.
Oui, mais Matthieu Paris, en plus, il avait, comment dirais-je, il était très impartial, d'autant plus qu'il était anglais, et qu'en général, souvent, les rois d'Angleterre n'étaient pas nos amis. Enfin, là, à cette époque-là, ça pouvait aller, mais Matthieu Paris, donc, est un très grand historien, et effectivement, le roi de France avait une aura absolument extraordinaire, et il se coulait, lui, dans une tradition qui venait évidemment des Carolingiens, qui était une tradition de la Bible de l'Ancien Testament, et en particulier cette fameuse la rosace et les lancettes qui sont en dessous montrent que la royauté française est l'héritière, la continuatrice de la royauté des rois de Juda. Voilà. Donc il y a une espèce de discrétion, on ne montre pas de roi de France, mais on montre en particulier des personnages importants, c'est-à-dire, si j'ai bonne mémoire, Aaron, Melchisédek, David
et
Salomon. Voilà. Et les rois de Juda sont représentés dans la rose pour montrer cette continuité, c'est-à-dire que il y avait l'ancienne alliance qui était l'alliance entre Dieu et Israël, et dans cette alliance la tribu de Juda était importante, c'était la première, et dans la nouvelle alliance qui est l'Église catholique, c'est la thèse des catholiques, la tribu de Juda c'était la France, et ça a été dit deux fois, en particulier par un pape écrivant à Saint-Louis dans sa bulle Dei Filius Cujus, c'est je crois 1239, et il montre qu'il faut que le roi de France se secoue un petit peu pour aller combattre l'empereur Frédéric II, qui est complètement hérétique sur les bords et qui fait n'importe quoi, et donc à ce moment-là il dit, mais enfin vraiment c'est vous la personne importante, et il faut que vous alliez mener le combat de la chrétienté contre cet empereur. Et un autre pape du temps de Philippe le Bel a même assimilé la France à Israël, à l'ancien Israël lui-même.
Voilà. C'est dans ce contexte qu'il faut interpréter les vitraux que nous voyons dans le transept
nord. Exactement.
Et donc cette onction royale était presque perçue comme un 8e sacrement.
Oui, qui n'était pas. C'est un sacramental, mais le pape a bien. Je ne me rappelle plus quel est le pape qui a bien dit que ce n'était pas un sacrement.
Alors, la cérémonie du sacre est bâtie autour de l'onction et comporte entre autres l'habillage, la remise d'objets très importants, des objets symboliques, fermail du manteau, sceptre. Justement, parlant du sceptre qu'arbore Salomon dans la lancette du transept nord.
Oui, mais là, il n'y a pas de... Bon, les rois portent des sceptres, et même, d'après la Bible, y a des évocations dans la Bible qu'il y a deux sceptres. D'abord, tout homme a deux mains, et donc il faut qu'il y ait quelque chose dans chaque main. Et c'est pour ça, d'ailleurs, dans la Bible, d'ailleurs, on parle de Virga tuus et Baculus tuus, ipsa me consolata sunt. C'est-à-dire qu'il y a la verge et il y a le sceptre. La verge est quelque chose de petit, qui est environ 50 cm de haut, et une coudée, c'est défini comme ça dans le sacre, dans l'ordo du sacre, et qui est terminé par une main. Et on a c'est pour ça que vers 1461, aux obsèques de Charles VII, on a appelé ça main de justice. Ça n'a rien à voir en soi avec la justice. C'est le sceptre du nouveau David, aussi bizarre que ça puisse paraître, parce que Saint Jérôme, dans ses étymologies, a déclaré que David voulait dire main forte. Donc le sceptre de David, c'est un sceptre avec une main. Voilà, c'est moi qui l'ai trouvé. J'en suis assez content parce que vraiment, il fallait savoir pourquoi il y avait une main au-dessus d'une verge. Maintenant, la question, c'est que l'onction du roi de France est faite en particulier sur la tête. Et à la fin du XIIe siècle, l'onction sur la tête a été interdite par le pape à tous les rois. Mais le roi d'Angleterre et le roi de France ont continué jusqu'au bout à avoir l'onction sur la tête. Voilà. Ça veut dire au pape, vous êtes bien gentil, mais là, on passe outre.
Alors, c'est un véritable hymne consacré à la royauté que ce programme du transept nord. Parlons peut-être des vitraux du transept sud. Vous avez déjà...
Les vitraux du transept sud sont évidemment... ils sont basés justement sur la transmission, sur les deux alliances. On voit les grands prophètes, les quatre grands prophètes qui sont figurés. Et sur leur épaule, on trouve les quatre évangélistes. Voilà. Et puis, il y a les armes du comte de Bretagne, c'est-à-dire... l'échiqueté d'or et d'azur de la maison de France, parce que ce sont les deux couleurs capétiennes numéro 1, avec une première brisure, celle des comtes de Dreux, qui est une bordure de gueule, une bordure rouge. Et comme le Pierre Mauclair était un cadet des Dreux, il surbrise en mettant un franc quartier d'hermine. Il a fallu attendre 1306 pour qu'un duc de Bretagne en ait eu particulièrement assez de faire figure de cadet en 1316. En 1316, le duc de Bretagne, je crois qu'il s'appelait Jean III, a envahi tous les culs avec l'hermine, et c'est comme ça que l'hermine est devenue la symbole de la Bretagne.
Voilà, et en toutes ces connaissances, vous pouvez, chers auditeurs de Radio Grand-Ciel, le retrouver dans le livre que Hervé Pinoteau vient de publier en 2008, Notre-Dame de Chartres de France, Le voile de la Vierge et autres merveilles. Vous parlez aussi non seulement du voile de la Vierge, vous parlez aussi du sacre d'Henri IV, vous parlez des chœurs donnés par la sœur de Louis XVI à la cathédrale de Chartres.
Madame Élisabeth. La sœur.
Replongeons un peu dans le portail sud. On voit donc les armes de Pierre de Dreux dans les manuscrits et les documents de l'époque. On ne l'appelle pas encore Pierre Mauclerc. Auriez-vous la gentillesse d'expliquer pourquoi on a pu lui accoler ce surnom Mauclerc? Est-ce que c'est un mauvais étudiant ou est-ce qu'il entretenait des mauvaises relations avec le clergé?
Il a eu des très mauvaises relations avec le clergé. C'est pour ça qu'on lui a donné ce surnom, mais c'était un personnage courageux. Joinville le montre à la croisade en Égypte, où il a véritablement. Il n'était plus comte de Bretagne parce que pour la cour de France, il n'y avait pas de duc de Bretagne. Il était simplement comte de Bretagne. Le comte de Bretagne a été un grand ennemi de Blanche de Castille au début. Ça, c'est très important. Il a été grand ennemi. Mais après, ils se sont réconciliés. Et puis, son fils devenant majeur. Il est simplement devenu Pierre de Dreux, tout court, ou le Pierre de Brennes, chevalier, et c'est comme ça qu'il est allé à la croisade. Et il s'est fait blesser terriblement à la croisade. Joinville le montre véritablement très, très, très amoché.
Il reçoit un coup d'épée dans le visage.
Oui, exactement, oui.
On peut peut-être dater, parler de la datation de cet ensemble de verrières, puisqu'on voit Pierre de Dreux avec Alix de Thouars, son épouse, agenouillée en prière, avec deux de leurs enfants. Or, ils ont eu trois enfants. Oui. Donc, comment est-ce qu'on pourrait situer dans cette verrière
verrières? Vous me prenez de court, parce que c'est là, je ne me rappelle plus, mais effectivement, on peut donner, je crois, autour de 1220, si j'ai bonne mémoire.
C'est ce que vous dites dans votre livre, effectivement, parce qu'il y avait un frère cadet, Artus ou Arthur, qui est mort en bas âge et qui n'est pas représenté dans le vitrail.
Et la question est, c'est qu'il n'y a aucune raison que le vitrail du Nord soit plus tardif que 1220. Ils ont fait ça ensemble et il faut pas. On est de là tout à fait. On est à cette époque-là, à l'époque de la fin du règne de. On est à la fin de l'époque du règne de Philippe Auguste. On n'est pas du tout, même sous Louis VIII, roi de France, on est du temps de Philippe Auguste.
Ce qui fait de la cathédrale de Chartres, si on se replace dans le cadre du Moyen-Âge, une cathédrale capétienne. L'étude des vitraux le prouve. Et donc, nous avons un ensemble de verrières qui arborent les symboles de la royauté française. Cher Hervé Pinoteau, merci beaucoup pour vos explications. Chers auditeurs, si vous voulez relire tout cela, procurez-vous le petit livre de Hervé Pinoteau, Notre-Dame de Chartres de France, édition François-Xavier de Guibert. Merci beaucoup, chers auditeurs. On termine plutôt l'émission avec Gaudé Félix Francia, Le conduit à deux voix pour le sacre de Louis IX en 1226.
Tu regis sunt si